prends la page 48, on est à la 7e, on est à la 7e Mishnah du chapitre 8. Donc on a expliqué au début du 8, on a expliqué au début du 8e chapitre que lorsque Dieu préserve, on fait un dommage à quelqu'un, on a l'obligation de lui donner, de le rembourser sur 5 pôles. 5 pôles. On a dit, donc je vais les résumer rapidement. On avait Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Pochette. Je traduis, d'accord? Donc la première chose qu'on doit rembourser, c'est le dommage. Par exemple, il lui a cassé un bras à la valeur du bras. La deuxième, d'accord, le deuxième pôle qu'il doit rembourser, c'est le tsar, c'est la souffrance qu'il a eu. Il a eu mal, il a eu très très mal. Ça se paye le mal. Donc le Bedin va évaluer. La troisième chose, c'est le médecin. On doit rembourser le médecin. Quatrième chose, c'est le chômage. Et cinquième chose, c'est la honte. La honte qu'il a eu du fait que pendant quelques temps, il devait se balader avec un plâtre, ou il devait se balader avec un défaut, etc. On a écouté bien ce qu'a dit la Mishnah. Afalpi, Shehu Notenlo. Bien que, imaginons que Dieu préserve, j'ai fait un dommage à quelqu'un, et que je l'ai tout payé. J'ai payé les 5 pôles, j'ai tout payé, je l'ai très bien payé. Eno Nimchalo. Cette faute ne lui est pas pardonnée. Ah, Tchiyevakesh, mais nous, je sais qu'il va demander Mechila sur le fait qu'il a blessé la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que comme on a payé, j'ai payé, ça y est, je te dois rien. Non. Tant qu'on n'a pas demandé pardon, d'accord, à part tout ce que j'ai payé, même si j'ai payé très très cher, tant qu'on n'a pas demandé pardon,
tu sais pas.
Mishnachet, page 48, en bas de la page. Tu as la page 48 Mishnah Zayin, pardon, oui. Eno Nimchalo.
Voilà,
j'avais dit Mishnah
Zayin. Mishnachet,
je ne comprenais plus rien.
Eno Nimchalo, Atiivakesh, Mimenu. Donc, on ne le pardonne pas. La faute ne l'est pas pardonnée. Jusqu'à ce qu'il demande explicitement à être pardonné. Chez Neymar, comme c'est écrit, Veata, Achev, Echet, Vegomer, etc. Alors, c'est quoi l'histoire? Lorsque Avimelech a pris la femme de Avraham, donc il a pris Sarah, d'accord? Enfin, elle s'appelait Sarah à cette époque-là. Et Akadosh Baruch Hu l'a puni pendant la nuit, et il lui a dit, Veata, Achev, Echet, donc rend la femme de cet homme, c'est une femme qui est mariée, tu la rends, d'accord? Kinaviou, là-bas, donc je vous dis la suite du verset, dit Kinaviou parce que c'est un prophète. Veit palel ba'adecha et demande-lui de prier pour toi. D'accord? Donc demande, s'il vous plaît. Donc demande la Mishnah, elle dit, c'est très simple, elle dit, comment ça se fait qu'il a besoin ici de demander, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ici, il a demandé à Avimelech, il lui a dit, rends la femme, numéro 1, et numéro 2, demande-lui qu'il prie pour toi. Pourquoi qu'il prie pour moi? Si je l'ai rendu et que je l'ai payé, ça y est, c'est fini. Donc de là on apprend qu'on a l'obligation de demander pardon, même si on a tout payé. Continue maintenant la Mishnah. Elle dit, Uminaïn Sheloye Amochel Arzari. D'où on sait maintenant que celui à qui on demande de pardonner ne doit pas être rancunier. D'accord? Elle ne doit pas être méchant. Elle dit, non, je pardonne pas. J'attends vraiment qu'il va me demander pardon. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de réfléchir comme ça. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vaitpalel Avraham el Ha'elokim, Vaïrpa Elokim et Avimelech. D'où on sait, d'accord? On sait parce que c'est écrit qu'Avraham, qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Avraham, tout d'abord, il a prié à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il a prié à Kadosh Baruch Hu, mais pas seulement ça. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Kadosh Baruch Hu pardonne Avimelech? Et plus que ça, nous raconte là-bas le Midrash qu'Avraham est même parti jusqu'à prier à Kadosh Baruch Hu pour que toutes les femmes qui était stérile chez Avimelech, que toutes, d'accord, puissent avoir un enfant. Ça veut dire qu'il est parti faire mieux que le dîme. On aurait pu se demander, a priori, Avraham Avin, où on lui a pris sa femme. D'accord. Je lui dis, prie pour Avimelech. Ok, il a prié pour Avimelech. Il est parti faire mieux que le dîme. Il est parti demander à Kadosh Baruch Hu que toutes les maladies éventuelles que la famille d'Avimelech avait, que tout lui soit pardonné. Donc de là, on comprend quoi? On comprend que lorsqu'on lui demande pardon, il faut toujours aller mieux que le dîme et toujours pardonner sans être regardant. On est d'accord? Voilà, c'est pour Rosh Chodesh Adar. Maintenant, à Omer, celui qui dit à son ami. Alors, oui, avant d'avancer, je voulais donner un commentaire du Torah Tmima. Torah Tmima amène un commentaire intéressant. Il dit que Akadosh Baruch Hu n'a jamais demandé à Avraham Avinu de prier pour Avimelech. Ce qu'il lui a demandé, et ce qu'il avait demandé à la base à Avimelech, c'est uniquement de demander le pardon. Quand par exemple, quelqu'un m'a blessé et qu'il me demande pardon. Donc, Minadin, je suis obligé uniquement de lui dire, bon, je te pardonne, je t'excuse. Et là, la Mida d'Avraham qui est extraordinaire, c'est que lorsque on s'est excusé, non seulement qu'Avraham Avinu a pardonné, mais il s'est retrouvé carrément à prier pour lui. il a fait une tfila pour Avimelech. Ça, c'est l'Ifni Mishurat Adin. Et nous, étant donné qu'on est descendants d'Avraham Avinu, Bné Avraham, Yitzhak Yaakov, donc on doit récupérer cette mida d'Avraham Avinu, et qu'on ne doit pas être rancunier, et que lorsqu'une personne qui nous a fait une crasse, excusez-moi du terme, vient nous demander pardon, non seulement qu'on doit lui pardonner, mais en plus, on doit même se retrouver à lui donner un cadeau par derrière. Tu dis, ouais, tiens, du coup, j'ai pensé, il faut prier pour toi, t'as un problème. D'accord?
Même voilà.
Ah, Omer!
Tu veux dire qu'on lui présente l'autre joue?
Non. D'abord, tu répares ma joue, après... Je...
Avec un G.
Ah, Omer, Samet, Ani. Celui qui dit... D'accord, on va parler justement de ça. Celui qui dit, Samet, Ani. Maintenant, une personne qui dit à son ami, alors dans la Mishnah, c'est toujours son ami, hein. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me crever un œil? Pour l'assurance, je sais pas pourquoi il le fait, mais bon, en tout cas, peut-être qu'il est fou. Ou bien, ça me rappelle une blague. Une fois, il y a deux Tunisiens qui peuvent pas supporter les uns les autres. Bon, enfin, ça aurait pu être des Algériens ou des Marocains. Hein.
Mais ils sont Tunisiens.
D'accord. Mais pour l'histoire, ils sont Tunisiens.
Voilà.
D'accord. Et donc, ces deux voisins, ils n'arrivent pas à supporter les uns les autres. Alors, une fois, le prophète Élie, il vient voir le premier. Il lui dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, ce que tu demandes, il te donne. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas te demander d'abord à mon voisin qui est en haut, va lui demander lui qu'est-ce qu'il veut, après tu reviens me voir et tu me donnes le double. Alors il monte chez le voisin en haut, il lui dit, voilà, je suis le prophète Élie et je te donne ce que tu veux. Il lui dit, bon, il dit, mais t'es parti voir mon voisin en bas déjà? Il a dit, oui, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, bon, alors crève-moi un œil.
Tellement qu'il est item.
Ah, c'est chaleur, hein, c'est... Oh, j'aime les Tunisiens, ne vous inquiétez pas.
Les Tunisiens, ils n'ont pas des couleurs.
C'est pour montrer, ça j'avais entendu une fois dans un chiot ou un rave qui voulait illustrer que ce que la Gemara a dit que Asina ma verrait d'atosh à la dame, que alors si une personne a la haine, ça peut le rendre fou à tel point qu'il fait des choses qui sont illogiques. Il voulait illustrer ça avec cette histoire. Bon. En tout cas là on parle d'amour. Aomer Samet Ani. Celui qui dit à son ami, crève mon œil, chas v'shalom. Ou bien que t'as été dit, coupe ma main, shvor et ragli, casse ton pied, etc. Et son ami, bien sûr, il s'est exécuté, il a fait.
Relation sadique.
Chayav. D'accord. Chayav, il est chayav. Alors maintenant, Maïmonide explique pourquoi il est chayav. S'il lui a cassé le bras, c'est parce qu'il a demandé de lui casser le bras. Après tu dis, ah maintenant il va attaquer en juge, il va dire pourquoi tu m'as cassé mon bras. Alors Maïmonide explique comme ça, il dit que c'est évident qu'une personne normale ne veut pas le faire. Et que c'est évident pour nous qu'il blaguait lorsqu'il le demandait. C'est évident pour nous. Et que même si, concrètement, il a commencé à lui tordre le bras, etc., et qu'il aurait pu l'arrêter, Maïmonide explique, il dit que c'est évident dans la tête de celui qui a demandé qu'on lui casse le bras, que je voulais pas qu'on casse le bras, je voulais simplement qu'on fasse semblant. Donc, étant donné qu'il est parti jusqu'au bout, on dit, c'est pas normal ce que tu as fait, et donc, il va lui exiger les 6 choses qu'on a dit, parce que finalement, il y a 6 choses. Enfin, on a dit tous les 5 pôles de remboursement, plus, il doit demander, Mechila.
C'est l'autre qui lui a demandé, d'accord, quoi.
Eh ben oui, ce qui explique Maïmonide, c'est un grand chidouche.
Non mais il est pas fou d'avoir accepté.
Alors attendez, d'accord.
Vous voulez pas aller à la guerre ou un peu comme ça.
Maintenant, d'accord.
Comme ça, j'irai pas à la guerre.
Même s'il lui a dit, que ce soit son ami, celui qui l'a demandé, donc il a demandé à ce qu'on lui crève l'œil, etc. Je préserve. Même s'il lui a dit, Almenat Liftor, d'accord. Il dit, écoute, je te demande de me crever l'œil, et à condition. Je mets la condition explicite que tu ne me devras rien du tout. Ah, c'était clair. On a signé un papier. Allez, signe un papier, tu vas me crever l'œil, chas v'shalom, je ne devrai rien. D'accord? Ça ne tient pas. Chayav, il est chayav. Ça vaut rien du tout. Pourquoi? Alors explique Rambam, ça c'est Rambam qui explique dans Ilchot Chovel ou Mazik, qui dit là-bas, hein, il dit que le principe il est que en derech ha'anashim, limchol al-tsar goufam. Qu'une personne ne peut pas être mochel, ne peut pas pardonner sur la souffrance de son corps. Et que même s'il l'a dit, et même s'il l'a écrit, on considère qu'il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Et c'est pour ça qu'une personne ne peut pas pardonner la souffrance de son corps. Donc, celui qui lui a fait ça, chayav, il devra tout rembourser comme si c'est un ennemi qui lui a fait. Maintenant. Kra et ketsuti, shvor et kadi. Là maintenant, on a un cas qui est légèrement différent. Si on a une personne qui dit, à l'autre, il lui dit... Donc, kra et kestuti, déchire mon vêtement, shvor et kadi, casse ma cruche. Et il l'a fait. Dans ce cas-là, chayav, il est chayav. On est d'accord, jusqu'ici ça ne change pas. Mais là, il y a une différence. S'il lui a dit, almenat liftor, si maintenant il le dit explicitement, il le dit, casse ma cruche, et tu seras patour, tu ne devras rien du tout. Là, dans ce cas-là, patour, il est patour. Pourquoi? Ça, c'est encore une fois ma monétistique. Il dit, parce qu'un homme peut pardonner sur son argent. Ça veut dire comme ça. Lorsqu'un homme, il a un objet de valeur, il peut se dire dans sa tête, il se dit, c'est pas grave si on le casse. Il peut être mochel sur ça. Mais sur la souffrance de son corps, il peut pas être mochel. Même s'il a dit qu'il est mochel, on considère qu'il n'a jamais été mochel sur la souffrance de son corps. Voilà pourquoi. Dans le premier cas, même s'il a dit explicitement, casse-moi le bras et tu ne me devras rien, il n'a pas été mochel. Et donc, il sera chayav de payer tout ce qu'on a dit. Mais dans le deuxième cas, étant donné que c'est de l'argent, sur de l'argent, si il ne lui a pas dit explicitement à condition que tu sois fatour, il va dire, mais t'as bien compris, j'ai rigolé avec toi, j'ai jamais envie de le casser. Mais s'il a dit explicitement à condition que tu sois fatour, là, dans ce cas-là, on considère que la personne a été mochel sur son argent.
Ouais, les dommages moraux.
Les dommages
moraux, il y a des dommages moraux qui sont
ouais.
Plus son corps que le corps. Qu'est-ce qu'on en fait?
C'est le tsar du gouffre, ça. C'est la même chose, ça rend le tsar du gouffre, ouais. On a déjà parlé d'ailleurs. On avait parlé il y a quelques temps d'un fou qui a blessé quelqu'un, qui s'est moqué de quelqu'un. Vous vous rappelez?
Oui.
Non, parce qu'il était fou.
Oui.
Sinon, c'est un dommage, c'est un tsar. On avait parlé, je crois que c'est la Mishnah Dalet, je crois. Ok. Alors, maintenant, autre cas. Ateken le Ishpluni. Almenat Liftor. Ah, là on a un autre cas. Donc il va payer quelqu'un, un tueur. Il lui dit, va faire ça à un tel, et s'il y a un problème, c'est moi qui paye. A priori. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'un homme ne peut pas pardonner sur le tsar de son corps. D'accord. Là, imaginez-vous maintenant, je vais nommer quelqu'un, je lui dis, tu vas le faire à ma place, et s'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui paye. Almenat Liftor. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Nous dit Chayav, il est Chayav, ben de Goufo, ben de Mamono. D'accord? Et ce concept, on l'avait étudié au début du Pérekret, mais j'avais dit qu'on allait le développer plus longuement dans cette Mishnah, donc c'est la Mishnah Zayin. Alors écoutez bien, ben de Goufo, ben de Mamono. C'est-à-dire, peu importe si j'ai envoyé quelqu'un faire du mal au corps d'une autre personne, ou peu importe si je l'ai envoyé pour faire du mal au bien d'une autre personne. On est toujours chayav. Pourquoi?
Parce que
en shliach lidvar avera. Et ça, c'est, la Gemara l'explique sur cette Mishnah.
Ah ouais.
D'accord? C'est son autre Mishnah. En shliach lidvar avera. Ça veut dire qu'on ne peut jamais missionner quelqu'un pour faire une avera. On considère qu'on peut missionner quelqu'un pour faire une mitzvah, mais on ne peut jamais le missionner pour faire une avera. Et donc on lui dit, écoute, tu étais responsable, pour nous, c'est toi qui l'as fait. Si après tu veux voir l'autre, tu te débrouilles, mais pour nous, c'est toi qui l'as fait. Donc on peut pas être le shliach de quelqu'un pour une avera. Donc le tueur à gage, pour nous, ça n'existe pas. Ça existe, mais il est responsable, c'est lui qui a tué. C'est lui le tueur. Ça n'existe pas. Après, attention, après il pourra attaquer au Bedin, pour dire oui, mais il savait que j'avais pas les moyens, et c'est lui qui m'a dit. Ça c'est un autre cas, c'est une autre affaire. Mais nous, on connaît qu'une seule personne. Qui on connaît? Celui qui a tué. On connaît personne d'autre. Voilà. C'est lui le Chaya, c'est lui qui est Chaya, c'est lui qui devrait tout payer. Ok. Maintenant on passe au 9e chapitre. Perek Teshié, donc 9e chapitre. Alors, dans ce 9e chapitre, on va parler des dynimes de Gozel. D'accord? Donc dans le chapitre Pérekret, on a parlé principalement des dommages. Donc voilà, on va continuer à parler des dommages, mais on va parler d'un dommage par le vol. Mais c'est pas n'importe quel vol, on parle du Gezel. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre Gneva et Gzela? Gneva, Gzela, ça vous dit quelque chose? Très bien. Alors, c'est un terme qui va revenir souvent dans la suite du Pérek, donc il faut se rappeler. C'est bon, messieurs? On a Gneva et on a Gzela. Un ganav, c'est une personne qui vole en cachette. D'accord? C'est-à-dire qui a fait un plan, etc., qui vole en cachette. Un gazlan, c'est une personne qui vole devant tout le monde. Alors d'après vous, lequel est plus grave?
Celui qui vole en cachette.
C'est quoi? De quel gradé
tu parles? Ah, très bien.
Non, celui qui vole en cachette. Pas du tout, celui qui vole en cachette, c'est plus grave.
Pourquoi?
Parce que celui qui vole en cachette, il dissimule en plus. C'est-à-dire que l'autre...
Alors, mais ça dépend pour qui.
Mon frère, là,
c'est une catastrophe. Non, quelqu'un qui vole devant tout le monde.
Il vole et il fait faire...
Alors, on verra dans la suite.
Il fait dire du mal aux autres.
Non.
Les autres vont dire du mal sur lui.
Alors, écoutez bien. On verra dans la suite. On verra dans la suite que c'est... Dans certains cas, le ganav est plus grave, dans d'autres cas, le gazlan est plus grave. J'explique. Oui, c'était... Alors, j'explique pourquoi. D'un certain côté, le gazlan est plus grave, puisqu'il n'a pas eu honte, il fait devant tout le monde. Le fait de ne pas avoir honte, c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'a même pas honte, il fait devant tout le monde. Mais d'un autre côté, le ganav est plus grave, celui qui vole en cachette est plus grave. Parce que celui qui vole en cachette, il ne veut pas voir du monde lorsqu'il vole. Et s'il y a du monde, s'il découvre du monde au passage, il est prêt à les tuer.
Non,
pas du tout. Le gazlan, il sait qu'il va avoir du monde, il en a rien à faire.
Si on l'a démasqué, d'accord, on a vu son visage. Bah,
on a vu son visage, il que personne ne voit.
Ça veut dire que... Faire. Oui, mais il tue personne.
Ah, on sait pas.
Alors que le ganav, dès qu'il y a un gazlan, il dit, monsieur, désolé, il fallait pas être là. Donc on verra.
Je vais t'expliquer.
Ouais, c'est temps-là, elle est partie chercher loin, la raison.
Non, mais c'est pas là. Ça.
On verra que selon les cas, des fois le gazlan est plus grave, des fois le gazlan, des
mais
fois le gazlan est plus grave.
Il a porté une attention sur un individu alors qu'il n'a pas fait du tout.
Il a.
C'est-à-dire parce qu'il a fait par cachette et qu'il aurait pu. Oui. Il aurait pu. C'est une attention pour l'instant. C'est pas un fait.
On peut condamner quelqu'un.
C'est pour ça que d'ailleurs dans la paracha Mishpatim, quand on nous parle du ganav, on lui dit sur qui on dit que en lo damim, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sang, ça veut dire que bah, si on le tue, on doit rien, c'est sur le ganav, celui qui est en cachette. Alors que le gazlan, c'est pas la même chose. Le gazlan, c'est pas dans tous les cas que j'aurais le tué. C'est pas parce qu'il voulait me voler mon portable dans la rue que j'aurais le tué. Alors que le ganav, s'il rentrait par réfraction chez moi, là on dit il risque de te tuer. Donc c'est pas la même chose.
Qu'il est rentré la nuit justement pour ne pas.
Oui, mais dès qu'il voit quelqu'un, dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à son plan, il tire. Bon, alors on continue. Donc on va commencer maintenant le Perek Tet. Alors, autre détail que je voulais vous dire avant de commencer le Perek Tet, c'est que Veheshiv et Agezela Asher Gazal. Donc, on va le lire bientôt. On va le lire bientôt. Si je ne me trompe pas, c'est dans la paracha Tzav, si je ne me trompe pas. Donc, c'est écrit Veheshiv et Agezela Asher Gazal que il doit rendre ce qu'il a volé. Ça, c'est un cas qu'on applique sur le gazlan. Ça veut dire que si une personne a volé devant tout le monde, étant donné qu'il n'avait pas honte, dans ce cas-là, Veshiv et Agezela Asher Gazal, la Torah lui demande de rendre l'objet qu'il a volé, pas un autre objet. Alors vous comprenez que ça peut être compliqué. Parce que si, par exemple, il a volé une poutre, et qu'avec cette poutre, il a construit un bâtiment, et qu'après, il fait tchouva. Il fait tchouva, et tu lui dis, bah, il faut rendre la poutre. Il faut rendre la poutre, il faut casser le bâtiment. Comment on fait? D'accord? On casse le bâtiment?
Non,
alors on verra dans la suite qu'il y aura ce qu'on appelle Takanat Hashavim. Takanat Hashavim, ça veut dire que les Chachamim ont instauré une Takana que, pour ceux qui veulent faire Teshuvah, et que si on va leur exiger de rendre ce qu'ils ont volé, dans beaucoup de cas, ils vont jamais faire Teshuvah. C'est-à-dire, c'est impossible. Donc jamais il fera Teshuvah. Donc pour encourager les gens à faire Teshuvah, bien que normalement la Torah nous a demandé de Veheshiv et Agezela Asher Gazal, bien que la Torah Minadin nous a demandé de rendre la poutre qu'il a volée, alors la Gemara va expliquer que dans un cas comme ça, les Chachamim vont rendre Efker, parce que c'est compliqué, les Chachamim ne peuvent pas faire sauter une zèle de Torah comme ça. Ils vont rendre Efker, ça veut dire ils vont abandonner cette poutre, ils vont dire qu'elle n'appartient plus à celui qui a été volé. D'accord ? Et après ils vont dire, eh ben du coup, maintenant, puisqu'elle n'appartient plus à celui qui a été volé, nous, le Bedin aura le droit de décider que cette poutre appartient à celui qui a volé. Parce qu'on verra dans la suite, c'est très compliqué. Le Bedin, les Chachamim, ne peuvent pas faire sauter une zèle de Torah. La Torah dit clairement, Veshiv et Agezela Asher Gazal, on va bientôt le lire, de rendre ce qu'il a volé. Donc les Chachamim vont devoir utiliser une technique de dire qu'on va déposséder, comme ça on dit, on va déposséder celui qui a été volé, et on va donner cette poutre à celui qui a volé, et d'un autre côté, on va déposséder celui qui a volé de la valeur de la poutre, on va dire tu vas le rendre à son propriétaire. Voilà, c'est un peu une technique qu'on va utiliser dans la suite. Alors, c'est ce qu'on va développer maintenant. Agozel etim vasal kilim. C'est pas évident du tout. Surtout qu'on fait sauter une zèle de la Torah. Alors, Agozel etim va'asa'an kelim. Si une personne a volé du bois et il en a fait un ustensile. Alors là, c'est pas le même cas que ce que je vous ai dit. Dans le cas que j'ai dit il a pris une poutre et il a utilisé en tant que pilier d'un bâtiment. Mais la poutre n'a pas été changée. D'où, c'est là qu'on a eu besoin de faire appel à la Takana de Chachamim qui dit que bien que normalement j'aurais dû rendre ce que j'ai volé, étant donné que pour rendre ce que j'ai volé, je dois casser le bâtiment, on va pas me l'imposer. Là, c'est différent. Là, on a eu un chinouille. C'est-à-dire quoi un chinouille? Ça veut dire qu'il a pris du bois et il en a fait un ustensile. Et après, t'as le propriétaire qui vient et qui dit « Oui, je veux mon bois. » Il dit « Mais ton bois, il n'y a plus ton bois. » Il y a maintenant un ustensile. Celui qui a volé du bois et qui en a fait « Kelim » qui en a fait des ustensiles. Ou bien « Semer varasao begadim ». Si c'était donc de... Il a volé donc de la laine, pareil. « Varasao begadim » il en a fait des vêtements. Alors, c'est quoi le principe que dit la Mishnah? Meshalem kesharat agezela. Il doit rembourser la valeur que l'objet valait au moment où il a été volé.
Ouais, même principe.
Quoi. D'accord? Non, attention, ça a changé là. Ça veut dire que la Mishnah nous dit ici que sur ça, le principe de Veheshiv et Agezela Asher Gazal ne s'applique pas. Pourquoi? Alors ça, c'est la Gemara qui explique. La Gemara dit, c'est très simple. Elle dit, qu'est-ce que te dit la Torah? La Torah te dit, tu dois rendre ce que tu as volé. Mais ce que j'ai volé n'existe plus. Moi, j'ai volé du bois. Il n'y a plus de bois maintenant. Donc, je peux plus rendre ce que j'ai volé. D'accord? Donc ça, c'est la Gemara qui dit. De là, on a appris que Veshiv et Agezela Asher Gazal, que Minadin, je dois rendre ce que j'ai volé uniquement s'il est toujours là. Mais dès qu'il y a eu un chinouille, dès qu'on a changé quelque chose, et dès qu'il y a eu une transformation, par exemple, du bois, j'en ai fait un keli, de la laine, j'en ai fait des vêtements, dans ce cas-là, il y a eu un chinouille, donc dans ce cas-là, je rends uniquement la valeur de ce que ça valait au moment où je l'ai volé. D'accord. Meshalem Kshat Agzela. Alors un autre cas un peu plus compliqué. Gazal Param Uperet Veyalda.
Attends, excuse-moi.
Oui.
imagine que quelqu'un vole des œufs.
Oui.
D'accord. Et avec ses œufs, il va faire un élevage, le bonhomme.
Oui.
Bon. Ensuite, le premier propriétaire, il arrive.
Il va les couver pour faire un élevage.
Oui, oui, non, non, j'écoute, j'écoute.
Le premier propriétaire, il arrive et il dit, oui, il m'a volé les œufs. Alors, il dit, attends, je vais te rendre les œufs. Il dit, mais regarde le poulailler que t'as fait grâce à moi. Bah, il dit, oui, mais je te devais les œufs. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire?
C'est l'instant de parrain. Bonne question.
Après, l'autre, il va dire, moi aussi, j'aurais fait un poulailler avec.
Très bien.
Alors?
Très bien. Bonne question. On va voir ça juste après.
Mais c'est le cas.
Mais je voulais vous rajouter juste un détail. C'est que Minadine. Alors. C'est qui? C'est Beethoven, c'est Mozart, qu'est-ce que tu nous as dit?
Je crois que c'est le Requiem.
Alors.
Non,
C'est pas le Requiem.
Alors, j'étais en train. Il y a un autre détail que je voulais vous dire. Mais la vérité, peut-être, on va s'arrêter ici parce que c'est déjà l'heure. Et on continuera la semaine prochaine. Je vais terminer avec un autre détail. C'est que la Gemara explique que dans quel cas on considère que. Je n'ai plus l'obligation de rendre l'objet qui a été volé. C'est uniquement s'il y a eu ce qu'on appelle un Shinui Hashem. Écoutez, Shinui Hashem, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de nom. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Le cas que la Gemara amène, imaginez-vous que j'ai volé une poutre, ou un morceau de bois, et que j'ai poncé le bois.
C'est toujours du bois.
C'est toujours du bois.
C'est toujours une poutre.
C'est toujours une poutre. C'est toujours du bois. Sauf que je l'ai poncé.
Vernis.
D'accord. Ou je l'ai verni, etc. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu le Shinui Hashem.
Il n'y
a pas eu de transformation. Bien que j'ai changé quelque chose, il n'y a pas eu de transformation. Et donc, quel est le din? Je rends comme elle est. Mais quand il y a eu un chinouille HM, par exemple, il y avait du bois et que du bois, j'en ai fait un ustensile, ça ne s'appelle plus du bois, ça s'appelle un ustensile. Là, dans ce cas-là, je n'ai plus l'obligation de rendre l'objet, je rends la valeur de l'objet. Mais on continuera la semaine prochaine, la suite, notamment le cas de M. Bismuth. Déjà là, je n'ai pas envie de trop...
Et si l'objet vient à des pieds?
Ce n'est pas les œufs, mais ça ressemble.
Et il y a quand même l'individu.
L'individu
qui s'est fait voler.
Oui,
bien sûr, il y a eu un préjudice.
Et notamment sur le temps.
Tu as raison.
Il n'a pas bénéficié de son objet pendant un certain temps.
Il la rend,
et peut-être
il
a...
Très bien, alors on va le rembourser, c'est ça. En argent, il n'y a pas de problème.
Tout préjudice,
c'est pas un problème. La question que je me pose, c'est est-ce que je dois rendre l'objet ou la valeur de l'objet? Il va dire, écoute, moi j'en ai fait un très bel ustensile, je ne veux pas te donner l'ustensile. Je viens faire tes choix, mais je ne veux pas te donner l'ustensile. Là, dans ce cas-là, la Torah ne lui exige pas. La Torah ne lui exige pas de rendre l'objet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Shinui Hashem.
Le Bedin le peut.
Oui, le Bedin le peut. Le Bedin le peut, ça veut dire quoi? Il peut le Bedin.
Il dit la Torah ne peut pas exiger.
Oui. Le Bedin le peut, dans... avoir... oui. Il peut avoir un droit sur ça. Exact.
Et dis-moi, quand tu rends la poutre, il y a des indemnités, il doit payer en plus.
Parce qu'il a déposé le... Oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
C'est pas ça la question de notre Mishnah. La question de notre Mishnah, c'est est-ce que je dois rendre l'objet ou sa valeur?
Sa valeur.
Et où est le... on a apporté le pasouk pour rendre l'objet. Où est le pasouk sur le damim? Sur la valeur que l'on doit rembourser?
En lo damim.
Oui.
C'est dans le parashat Mishpatim.
Oui. Sur la valeur de l'objet que l'on doit rembourser.
Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de pasouk sur ça.
Il n'y a pas de pasouk.
Parce que le pasouk. Bah, c'est du, de non, ce pasouk.
La transformation.
Asher gazal. Veshiv het gazela asher gazal.
De ce pasouk-là, on apprend qu'on doit rembourser sa valeur et non pas l'objet.
Bien sûr, parce que
quand
quand
l'objet a perdu son nom.
Attendez, veshiv het gazela asher gazal. C'est un pléonasme. Oui. Tu répètes, il va rendre le vol qu'il a volé. Bah, s'il a volé, c'est un vol, c'est évident, c'est la même chose. Oui. Donc là, on apprend que veshiv het gazela asher gazal. Que dans quel cas il doit rendre l'objet, c'est seulement si l'objet tel qu'il est maintenant, c'est le même objet qu'il a volé.
Et sinon, on apprend.
Sinon, il rend la valeur.
De ce même passage qu'on apprend.
Oui, bien sûr.
Oui. Comme il n'est pas en mode de
parler, il a un voleur, c'est Chuma,
monsieur. Ah, bien sûr.
Sinon, c'est Kefel.
Oui, c'est-à-dire, on l'a